Vous écoutez, on lit pour vous.
Entre le psy et l'algorithme. Entrevue avec Christine Groux. Un texte de Rosemée Autonne T. Morin, paru le 22 avril 2026 dans La Presse. Les Québécois n'ont jamais été si nombreux à consulter un psychologue et à se confier à l'intelligence artificielle. À la veille de son départ de la présidence de l'Ordre des psychologues du Québec, Christine Groux revient sur l'évolution, marquante, de la société à l'égard des services psychologiques. Selon un sondage léger réalisé du 13 au 16 mars 2026 auprès de 1063 adultes québécois, un Québécois sur deux, 52 % a déjà consulté un psychologue dans sa vie, dont un sur sept dans la dernière année, contre 15 % en 1992. Cette évolution est-elle signe que ça va bien ou que ça va mal? C'est signe que les gens sont beaucoup plus conscients de l'importance de prendre soin de leur santé mentale et qu'ils connaissent mieux les services psychologiques. Il y a aussi beaucoup moins de stigmas dans beaucoup de milieux. Je pense que les gens ont compris que la santé globale, ça inclut la santé mentale, qu'on ne peut pas juste prendre soin de son corps sans s'occuper de sa santé psychologique. Cela dit, de façon hypothétique, il y a peut-être d'autres facteurs aussi, comme davantage d'isolement social. Et l'anxiété chez les jeunes semble aussi en hausse. Il y a des impératifs de performance énormes, beaucoup plus de solitude et d'isolement, même chez les jeunes. Les relations virtuelles sont aussi très différentes des relations réelles. À mon avis, les gens développent moins d'intimité dans le virtuel. Et on a peut-être moins de tolérance à l'anxiété également. Toute anxiété, toute tristesse n'est pas nécessairement mauvaise. Ce sont des phénomènes normaux, mais il faut outiller les gens pour composer avec, pour peut-être mieux les tolérer. Le sondage montre que les hommes consultent moins que les femmes, 42 % contre 63 %. Pourquoi? L'offre de services psychologiques est peut-être moins adaptée à eux, chose à laquelle il faudra réfléchir. Et dans l'esprit des hommes, la consultation psychologique est peut-être moins caractéristique du rôle masculin traditionnel, de la personne forte, moins émotive. La crainte du stigma est peut-être un peu plus présente chez les hommes. Le sondage dévoile également que 49 % des répondants et 68 % des 18-34 ans ont déjà utilisé l'intelligence artificielle pour des raisons liées à la santé mentale. Obtenir des ressources d'aide, comprendre ses émotions, gérer son stress. Quelle est votre vision de ce phénomène? Une vision très préoccupée. Il ne faut pas diaboliser l'intelligence artificielle, mais il ne faut pas l'idéaliser non plus. Je peux comprendre l'engouement de la population pour les chatbots. C'est actuellement gratuit, disponible 24 heures sur 24. C'est centré sur soi et ça valide beaucoup. Alors que quand on va voir un psychologue, on questionne parfois. Il y a des remises en question pour permettre l'évolution. L'intelligence artificielle peut rendre des services, mais ne remplacera pas la compétence professionnelle et la formation. Bref, l'IA est toujours d'accord avec soi? Beaucoup de gens viennent consulter parce qu'ils ont des enjeux relationnels. Or, je ne pense pas que l'intelligence artificielle soit un véhicule pour développer des relations humaines. C'est toujours centré sur soi, toujours disponible. Si l'utilisation de l'intelligence artificielle pallie le déficit de relations des gens, qu'est-ce que ça va faire comme relation dans 20 ans, 25 ans? L'autre chose qui me préoccupe, c'est que les gens confient des choses très sensibles à l'intelligence artificielle sans nécessairement comprendre comment ça fonctionne. S'il advenait que ça serve à d'autres fins, c'est préoccupant. Que faire? Plus une technologie est puissante et plus elle évolue vite, plus elle a besoin d'être encadrée pour aller chercher le maximum de bienfaits tout en réduisant les méfaits. et actuellement, il n'y a pas d'encadrement. En mai 2026, vous quitterez la présidence de l'Ordre après 3 mandats, le nombre maximal prévu au Code des professions du Québec. Dans ces 11 années, l'arrivée de l'intelligence artificielle constitue-t-elle le plus grand changement? C'est un des changements les plus majeurs, oui. L'autre changement, évidemment, c'est ce que la pandémie nous a apporté, le développement fulgurant de la télépratique et l'augmentation des demandes de consultation. Les motifs de consultation ont aussi tendance à changer. Il y a 30 ans, on ne parlait pas d'éco-anxiété ou de radicalisation. Il demeure difficile, pour bien des personnes, de consulter un psychologue. Que faire pour améliorer l'accès? Il y a plusieurs choses à faire. Présentement, le réseau public perd ses psychologues parce que les conditions d'exercice sont moins intéressantes. Sans dégarnir la deuxième et la troisième ligne, il faut en mettre en première ligne. Et comme ordre professionnel, on doit soutenir les psychologues au privé pour développer une offre de services plus variée. Par exemple, des thérapies moins longues, des thérapies de groupe en virtuel. Enfin, les universités doivent évidemment entrer dans la danse pour offrir les meilleures formations possibles, selon les besoins de la société. C'était « Entre le psy et l'algorithme », entrevue avec Christine Groux, un texte de Rosemée Autonne T. Morin paru le 22 avril 2026 dans La Presse.
Est-il encore nécessaire d'apprendre une langue? Un texte de Jean-François Ouellette paru le 1er avril 2026 dans La Presse. Le tollé provoqué par l'incapacité du PDG d'Air Canada à s'exprimer en français et qui, selon toute vraisemblance, a eu raison de la carrière de ce dernier au sein du transporteur, a relancé un débat prévisible mais pas inutile. On peut y voir une controverse de plus sur la place du français au Canada. On peut aussi s'en servir pour poser une question plus large et plus actuelle. À l'ère de l'intelligence artificielle, est-il encore nécessaire d'apprendre d'autres langues? Jean-François Ouellette est professeur à HEC Montréal et y réfléchit. Précisons-le d'emblée, il ne s'agit pas ici pour moi de faire le procès d'un individu, même si dans le cas précis d'Air Canada, le fait pour un grand dirigeant de ne pas pouvoir s'exprimer dans la langue d'environ 22% de la population canadienne et d'une part majeure de son marché québécois, alors même que son siège social est à Montréal, soulevait évidemment une question de jugement. Air Canada est soumise à la loi sur les langues officielles. Elle opère dans un pays officiellement bilingue. Et la sensibilité linguistique n'est ici ni marginale, ni folklorique. Mais le vrai intérêt de ce texte est ailleurs. Il est dans ce qu'il révèle sur notre rapport nouveau aux langues. Pendant longtemps, apprendre une autre langue servait d'abord à comprendre. Lire un contrat, vendre à l'étranger, négocier, voyager, faire des affaires. Or, cette fonction-là est en train d'être transformée à grande vitesse. Zoom offre déjà des sous-titres traduits en temps réel. Microsoft Teams propose maintenant de l'interprétation vocale en direct. Des outils comme HeyGen permettent de traduire des vidéos en conservant la voix, le ton et même une synchronisation labiale de plus en plus convaincante. Et d'autres, comme Owl, traduisent simultanément dans vos oreillettes les propos de vos interlocuteurs. Autrement dit, la technologie s'attaque désormais non seulement aux mots, mais aussi à l'illusion même de la proximité linguistique. Ce basculement est réel, et il faut le reconnaître. Oui, l'IA va rendre moins indispensable l'apprentissage d'une autre langue pour accéder à l'information brute. Oui, elle va aider des PME québécoises à exporter, à répondre à des clients étrangers, à produire du contenu multilingue et à tenir des réunions qu'elles n'auraient jamais pu tenir avec autant de fluidité auparavant. Sur ce plan, c'est une avancée formidable. Elle démocratise des possibilités autrefois réservées aux grandes entreprises. Entrer en relation. Mais c'est précisément ici qu'il faut éviter une confusion. Traduire n'est pas nécessairement entrer en relation. Je parle français, anglais, espagnol, je me débrouille en italien et en allemand et baragouine un peu de japonais. Au-delà d'une curiosité personnelle, j'ai réalisé tôt dans ma vie d'entrepreneur que le fait de pouvoir m'exprimer, même imparfaitement, dans la langue de mes interlocuteurs à l'étranger, me rapportait rarement seulement de la clarté. Cela m'achetait de l'empathie. Cela changeait le climat. Cela signalait un respect. Cela rendait la conversation moins transactionnelle et plus humaine. J'avais bien tracé la ligne aux Finnois, malgré des tractations avec Nokia, car il faut savoir reconnaître qu'il existe des limites à l'ambition linguistique. Mais partout ailleurs, cet effort m'a presque toujours aidé à bâtir quelque chose qu'aucun outil ne peut entièrement générer, la confiance. Car une langue n'est pas qu'un véhicule pour transmettre de l'information, c'est aussi un geste, une manière de dire à l'autre « Je ne demande pas seulement que tu me comprennes, je fais aussi l'effort d'aller vers toi. » Et c'est précisément pour cela que l'affaire Air Canada est révélatrice. Car si parler la langue de l'autre est une manière d'aller vers lui, ne pas la parler au sommet dit aussi quelque chose. Les hauts dirigeants façonnent la culture de leur entreprise. Ils montrent par leurs priorités et leurs angles morts ce qui mérite une vraie attention et ce qui peut rester secondaire. Si le français semble accessoire en haut, il finira souvent par l'être aussi dans l'embauche, les promotions, le service et au fond, dans la compréhension réelle d'un marché de plusieurs millions de Canadiens. Autrement dit, quand un PDG banalise même involontairement l'importance d'une langue, il risque de banaliser aussi à travers toute l'entreprise l'importance de ceux qui la parlent, les employés à l'interne autant que les clients à l'externe. Et pour tous les autres, non. Apprendre des langues ne sera plus aussi indispensable qu'avant pour simplement fonctionner dans le monde. Les machines vont continuer d'abaisser beaucoup de barrières. Mais non, cela ne rendra pas les langues inutiles non plus. Leur valeur va plutôt se déplacer. Hier, parler une autre langue procurait surtout un avantage informationnel. Demain, ce sera de plus en plus un avantage relationnel. On apprendra peut-être moins une langue pour traduire des mots, on continuera à l'apprendre pour traduire une intention, un respect, une sensibilité, une capacité à vraiment rencontrer l'autre. L'IA nous aidera de mieux en mieux à nous comprendre. Elle ne nous dispensera pas de faire sentir à l'autre qu'il est compris. Et pour un dirigeant, cette nuance n'est pas accessoire, elle est stratégique. C'était « Est-il encore nécessaire d'apprendre une langue ?» un texte de Jean-François Ouellette, paru le 1er avril 2026 dans la presse.
Ça ne devrait même pas être un événement. Un texte d'Isabelle Morin, paru le 27 mars 2026 dans la presse. Isabelle Morin est professeure de sociologie au collégial, autrice du livre « Ma vie de cégep, confidences et réflexions d'une prof » et animatrice du balado « Paroles de Gen Z ». Nous sommes à la semaine de cours 10. La session avance. Mes jeunes sont fatigués et stressés par les grosses notes qui arrivent trop vite pour plusieurs. Mais 10 semaines à nous côtoyer, à échanger, à apprendre à comprendre un peu le monde qui les entoure, qui nous entoure, ça ouvre un espace de communication sûr. C'est alors que très souvent, des échanges formidables se tiennent, voire des confidences se libèrent, s'expriment avec une certaine légèreté. Est-ce que le corps est un objet de contrôle social? Voilà la question que je leur pose et qui les ramène à eux, au rapport qu'ils ont à leur propre corps, à celui réel ou fantasmé. Sur une feuille, individuellement, ils notent leurs pensées, leur avis et identifient des arguments pour justifier leur position. Crochet long vers le cadre conceptuel sous-jacent, écoute d'un reportage de Rad sur l'effet Instagram, la retouche comme nouvel idéal de beauté, et s'ouvre enfin la discussion. Je constate ainsi, sans grande surprise, la violence qu'imposent les réseaux sociaux. Pas celle d'un coup dans le ventre ou d'une arme pointée sur une tempe, non. Celle insidieuse et moins frappante de la presse sociale à l'uniformisation des corps. Certains vont l'exprimer haut et fort en groupe, dénoncer cette puissance déferlante des images stéréotypées de femmes sexy, juste assez musclées pour préserver leur féminité séduisante et désirable, et d'hommes ostentatoirement musclés pour témoigner de leur invincibilité, de leur force et de leur domination conquérante. D'autres vont choisir de me l'écrire dans une réflexion sommative. La tentation de prendre des produits illicites pour grossir, ou le doigt dans le fond de la gorge pour contrôler ce corps par peur de grossir, du désir décomplexé de franchir le pas d'une porte d'une clinique médico-esthétique pour s'injecter à 20 ans le bonheur dans la face à coups de piastre, fuir les marques potentielles du temps, fuir les traces de la vie qui passe. Les signes du temps. Et je suis là, devant eux, moi la préménopausée de 52 ans, qui teint ses cheveux, geste banal, normalisé, incrusté dans la vie des femmes depuis si longtemps, qui discute des effets de la pression sociale en prenant conscience qu'elle me frappe aussi. De retour chez moi, les yeux rivés sur mon miroir de la salle de bain, je me regarde. J'interprète mon reflet par le prisme de ma société, de ses valeurs, de ses modèles, de ses normes. Se regarder, s'évaluer n'est jamais un geste neutre. Pourquoi je teins mes cheveux? Pourquoi cacher, camoufler mèche par mèche les signes du temps, moi à qui l'on dit que je ne fais tellement pas mon âge? Est-ce si grave de faire son âge? J'ai toujours trouvé les hommes aux tempes grisonnantes tellement beaux, sexy, alors pourquoi pas moi? Jamais je ne jugerai les personnes qui font le choix de se teindre, de s'injecter ou de passer sous la précision du bistouri, mais j'ai décidé, à ce moment de ma vie, d'offrir à mes filles, à ma petite fille, à mes jeunes, à moi-même, le modèle d'une femme qui tente d'assumer ce qu'elle est réellement. La semaine suivante, de retour en classe, je me permets cette confidence. Que malgré mes expériences, ma scolarité, mon assurance et ma confiance, mon côté fort en gueule, je partage avec eux cette pression oppressante et qu'inspirée par eux et par des femmes qui font ce choix, je serai fièrement une boule grise. Petite histoire d'un événement qui ne devrait pas en être un. C'était « Ça ne devrait même pas être un événement », un texte d'Isabelle Morin, paru le 27 mars 2026 dans la presse.
Des preuves qu'il est possible d'agir. Un texte de Philippe Mercure, paru le 21 avril 2026 dans la presse. Nos cibles de réduction de GES sont régulièrement ratées ou repoussées. Le caribou forestier continue de décliner. Rien ne semble vouloir rapprocher la fonderie Horn des normes de pollution. Facile ces jours-ci de croire que l'être humain est impuissant à agir pour l'environnement. Des avancées majeures, pourtant, il y en a déjà eu. Je vous propose d'en revisiter quelques-unes, histoire de se rappeler qu'il est possible de changer les choses. La couche d'ozone. Ceux qui, comme moi, ont grandi dans les années 1980 se souviennent de ce stress ressenti en mettant le nez dehors. La couche d'ozone, censée nous protéger des rayons UV du soleil, s'amincissait au-dessus de nos têtes comme les bulles de gomme houba-bouba à mesure qu'on soufflait dedans. Les responsables? des gaz comme le chlorofluorocarbone, CFC, utilisé notamment dans les réfrigérateurs et les mousses isolantes. J'ai toujours été fier de savoir que c'est à Montréal en 1987 qu'un protocole a été signé pour interdire ces substances nocives. Pas moins de 197 États l'ont ratifié et surtout mis en vigueur. Résultat, 99% des gaz endommageant la couche d'ozone ont été éliminés, si bien que la couche d'ozone se régénère et devrait retrouver ses niveaux d'antan vers le milieu du présent siècle. Les pluies acides. Comme l'amincissement de la couche d'ozone ou le duo musical Milli Vanilli, les pluies acides sont un autre phénomène des années 1980 dont nous sommes soulagés de ne plus entendre parler. Cette fois, ce sont le dioxyde de soufre et les oxydes d'azote rejetés par les centrales thermiques, les fonderies et d'autres types d'usines qui étaient en cause. Les pluies acides affectaient les forêts et tuaient la vie aquatique des cours d'eau. Le Canada, les États-Unis et l'Europe ont réagi en limitant les émissions des polluants en question et en signant des protocoles d'entente sur la pollution transfrontalière. Les pluies acides n'ont pas complètement disparu, mais le phénomène est bien moins inquiétant qu'il ne l'était. Aux États-Unis, l'Environmental Protection Agency estime que les émissions de dioxyde de soufre ont diminué de 95 % et celles d'oxyde d'azote de 89 %. Le retour des oiseaux de proie. Le pygargue à tête blanche est un oiseau spectaculaire, pas étonnant qu'il ait été choisi comme l'emblème des États-Unis. Or, cette icône a bien failli disparaître. C'est difficile à imaginer aujourd'hui, mais à la fin des années 1960, il ne restait pratiquement aucun pygargue à tête blanche en Amérique du Nord à cause de l'utilisation d'un pesticide appelé DDT. Aujourd'hui, je peux me rendre sur le bord d'une rivière près de Vancouver et en voir des centaines en une seule journée, dit David R. Boyd, professeur à l'Institut des ressources de l'environnement et de la durabilité à l'Université de la Colombie-Britannique. Ce qui est arrivé? Le bannissement du DDT, tout simplement, imposé au début des années 1970 par un grand nombre de pays. L'interdiction de ce pesticide qui amincit la coquille des œufs d'oiseaux a profité non seulement aux pygargues à tête blanche, mais également à de nombreux oiseaux de proie dont les populations ont bondi de 35 % au Canada depuis 1970. En pleine crise de biodiversité, il s'agit d'une victoire extraordinaire. La fin du plomb dans l'essence. Dans les années 1920, l'industrie automobile a accouché d'une idée qui semblait géniale. Ajouter du plomb dans l'essence pour augmenter l'efficacité des moteurs et les lubrifier. L'une des plus grandes erreurs du XXe siècle, dit aujourd'hui le professeur David R. Boyd, c'est que le plomb est toxique pour l'humain, provoquant notamment des dommages neurologiques chez les enfants. Son ajout à l'essence contribuait à son rejet dans l'air, dans l'eau et dans le sol, causant aussi des effets nocifs sur la faune et la flore. En 2021, le Programme des Nations Unies pour l'environnement a annoncé que tous les pays du monde avaient cessé de vendre de l'essence au plomb. L'Algérie a été le dernier pays à le faire, quelques années après l'Irak, le Yémen, la Corée du Nord, la Birmanie et l'Afghanistan. Un succès à l'échelle de la planète, sans aucune exception. Comment reproduire de telles victoires? Chacun de ces cas a été rendu possible grâce à une législation et une réglementation strictes. Et ça, c'est le rôle des gouvernements. Adopter des lois, puis s'assurer de les mettre en œuvre, répond le professeur David R. Boyd. L'auteur de l'ouvrage « Environnement, les années optimistes » souligne qu'à l'époque, les lobbies industriels étaient pourtant tout aussi mobilisés qu'aujourd'hui. Les succès ont lieu lorsque les gouvernements ont le courage de tenir tête à l'industrie en protégeant l'intérêt public plutôt que les intérêts privés, dit-il. Malheureusement, on voit trop de gouvernements actuels faire passer les intérêts privés avant l'intérêt public. Et cela constitue une trahison de leur devoir envers les citoyens qu'ils sont censés servir. L'exemple du pigargue à tête blanche, pour lequel les Américains avaient un attachement particulier, contient une autre leçon. Nous défendons ce qui nous est cher. Vous vous souvenez quand vous étiez enfant? Je parie que vous trouviez que la nature était extraordinaire, qu'il s'agisse d'un pigargue à tête blanche, des grenouilles dans l'étang ou d'aller pêcher avec votre père, dit David R. Boyd. Il souligne que les adultes devraient se reconnecter à la nature, ce qui aiderait à en défendre la cause. En ce sens, il croit que la création de parcs et de réserves est un pas dans la bonne direction. J'ai aussi échangé avec le professeur Stéphane Castonguay, spécialiste de l'histoire de l'environnement à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Il est plus critique envers ce que je décris comme des victoires environnementales. À son avis, les victoires d'ici et d'aujourd'hui peuvent être perçues comme des échecs ailleurs ou à une autre époque. Il souligne par exemple que le moteur à combustion a d'abord été vu comme une victoire environnementale, libérant les villes du cottin de cheval. De la même façon, des organochlorés ont été bannis comme le DDT et les CFC, mais des produits chimiques et biotechnologiques parfois aussi puissants, mais aux effets imparfaitement connus, ont été mis au point, fait-il remarquer. Les pluies acides dans l'est de l'Amérique et en Europe ont été contrôlées, mais une partie de la sidérurgie a déménagé dans des régions où les contrôles environnementaux sont moins efficaces, s'ils existent. Il faut effectivement prendre garde aux angles morts des mesures que l'on adopte. Mais je persiste à penser que les victoires environnementales du passé sont réelles. La couche d'ozone se rétablit bel et bien, tout comme la population de pigargues à tête blanche. Il me semble que ces victoires devraient nous inspirer. D'autant plus qu'il ne manque souvent qu'un ingrédient pour les reproduire. Le courage. C'était « Des preuves qu'il est possible d'agir », un texte de Philippe Mercure paru le 21 avril 2026 dans La Presse.